dites que dans 20 ans, aucun pays européen, aucun pays membre de l'Union européenne ne sera dans le G7. Donc il faut agir avec un plan d'investissement. On avait parlé du plan Juncker, 300 milliards d'euros. Où ça en est ?
Alors effectivement, c'est un constat, tant du point de vue démographique qu'économique. D'autres pays sont plus prospères et rapides que nous, dont la Chine, l'Inde, etc. Ce qui fait que, tant en termes de part de population que de croissance économique, si nous ne réagissons pas vite, aucun des pays actuels de l'Union européenne ne figurera dans ce qu'on appelle les G7, donc les 7 pays les plus importants du monde. C'est pour ça que la Commission a décidé de mettre en place un plan d'investissement de plus de 400 milliards qui a été porté maintenant à 500 milliards d'ici 2020.
Pourquoi faire ?
L'objectif, c'est en tout cas de mobiliser des capitaux. Il est clair que ce n'est pas le contribuable qui doit payer toujours pour la même chose, hein, pour les entreprises. Ce que nous donnons, c'est en fait un capital risque qui permet aux PME notamment d'emprunter. Et nous, avec l'argent public, nous garantissons ces prêts.
Alors comment vous choisissez ces PME ?
C'est en fait elles qui nous choisissent, c'est-à-dire que la sélection se fait sur projet. Donc les projets innovants, les projets qui présentent le plus d'intérêt. Et effectivement, puisque nous ne sommes pas tout à fait sur un marché ouvert, c'est un marché de capital risque, donc nous choisissons les projets les plus prometteurs. Et nous acceptons, bien entendu, un facteur d'échec, puisque c'est un capital risque.
Vous investissez dans des projets dits structurants, un exemple en Auvergne ?
Oh, un exemple, c'est une usine de retraitement du titane. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est très simple, puisque le titane est un métaux rare et cher, qui se trouve notamment dans les avions, notamment dans les montres, notamment dans un certain nombre de produits maintenant de grande circulation, mais qui n'a jamais été retraité. Donc, c'est une perte colossale. La seule usine qui existait était aux États-Unis. Donc, imaginez d'envoyer nos avions aux États-Unis pour retraiter le titane. Donc, ça, c'est un cas effectivement intéressant. Donc, en Auvergne, donc dans une zone semi-rurale, une grande entreprise qui se lance dans le retraitement du titane. Espérons effectivement que ça fera un marché européen du titane qui n'existe pas pour l'instant.
Enfin, rappelons-nous que l'Auvergne a été longtemps le site de nos usines quand même d'armement. Hein. C'était le centre de la France, donc ce qui était protégé. Donc l'Auvergne n'est pas uniquement une zone rurale, elle a aussi une tradition industrielle. L'autre axe, c'est la jeunesse. Qu'est-ce que l'Europe veut faire pour la jeunesse ?
Là aussi, un constat, c'est que la jeunesse, malheureusement, dans pratiquement tous les pays, est la couche de la population la plus frappée par le chômage. Et ça, c'est une vraie catastrophe, d'abord pour les jeunes, mais aussi pour notre économie et notre société. Il faut absolument que les jeunes rentrent dans le marché du travail et ceux qui n'y sont pas soient aidés par tous les moyens. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre d'instruments, notamment financiers, pour donner à chaque jeune la chance soit d'avoir une formation, soit d'avoir un pied supplémentaire dans le système éducatif, ou mieux, un stage dans une entreprise, ce qu'on appelle la garantie jeunesse.
L'Europe donc investit, disons, agit sur le plan économique. En mars prochain, ce sera le 60e anniversaire du traité de Rome. Elle veut aussi paraître sociale. Alors là, on a quand même un peu de mal. On voit les problèmes de la directive des travailleurs détachés qui fait vraiment réagir notre milieu du bâtiment. Et il y a d'autres problèmes. Qu'est-ce que la Commission européenne peut faire pour persuader le citoyen européen qu'elle est sociale ?
Eh bien, effectivement, donc on arrive au 60e anniversaire du traité de Rome. Donc là, effectivement, on n'a pas de nostalgie, on n'est pas là pour fêter des anniversaires. Simplement se rappeler d'où on vient. Donc d'où on vient, c'était un chaos, la Seconde Guerre mondiale, la guerre totale, etc. Donc ce qu'on veut célébrer, c'est en fait une Europe qui fonctionne. Donc on est sorti de cette situation ubuesque, catastrophique, génocidaire, hein, maintenant une société de solidarité quand même et de prospérité entre États membres. Bien entendu, il y a des failles, et on en est tout à fait conscient, notamment sur un certain nombre de protections que demandent les citoyens, notamment les travailleurs, qu'on doit établir au niveau européen. Donc c'est pour ça que la fameuse directive que vous citez, donc les travailleurs détachés, finalement doit être révisée, tout simplement parce qu'elle n'est pas appliquée dans sa totalité. Il y a trop de fraudes. Et ça, c'est inacceptable. Des fraudes, notamment aux frais de transport, aux frais d'hébergement, les employeurs ne le considèrent pas, les heures supplémentaires. Donc En fin de compte, on s'aperçoit que les travailleurs détachés n'ont pas le même statut que les travailleurs locaux. Et ça, c'est pas possible. Alors, un petit détail aussi, la France est, à ma connaissance, le deuxième pays qui accueille le plus de travailleurs détachés après l'Allemagne, mais c'est aussi le troisième pays qui envoie des travailleurs détachés ailleurs. Donc, vous voyez, c'est pas noir et blanc, il y a des situations qu'on doit prendre en compte. Le fait d'avoir des travailleurs détachés avantage la France de manière générale. Par contre, effectivement, nous devons protéger les travailleurs français, mais comme tous les autres travailleurs d'Europe, à ce qu'il n'y ait pas de fraude, notamment sur les systèmes sociaux. Et nous sommes très vigilants pour cela. Donc c'est pour ça que nous sommes tout à fait ouverts à une révision de cette directive pour que chaque travailleur ait le même salaire à travail égal.